Tu vois, je pourrais ouvrir un livre à cette heure-là, mais je préfère écouter l'agité du local.
C'est vrai, des belles histoires, mais aussi de beaux personnages, qui sont en fait des vrais gens d'ici.
La couleur de mes murs est choisie avec soin, l'emplacement de chaque meuble est pensé et chaque objet que je dispose dessus a une histoire et ça y est, je me sens chez moi et je m'y sens bien. Les objets, les meubles ont une histoire, notre rapport au neuf ou au réemploi est essentiel aujourd'hui et mon invité d'aujourd'hui va même bien plus loin que ça dans son rapport sensible et artistique aux meubles qu'elle chine. Morgane Laborne, bonjour, tu es avec nous aujourd'hui, merci.
Bonjour Margot.
Tu chines et tu rénoves des meubles anciens, tu leur donnes une seconde vie en les mettant au goût du jour avec ton projet Le Labo de la Méduse et donc tu nous en parles dans quelques instants. Lucie, tu es aussi avec moi aujourd'hui, tu es de retour cette semaine.
Bonjour.
Et donc on te retrouve tout à l'heure pour l'actu en bref. Et ce n'est pas tout puisque dans la suite de l'émission, on se rend à Saint-Pierre-des-Nids au cinéma associatif L'Aiglon à la rencontre de Charlotte Royer, présidente de l'association. C'est un portrait d'hier et d'aujourd'hui du cinéma et de ceux qui le font vivre. On termine bien évidemment la chronique avec la chronique du jour et ce mardi c'est Donatien qui se place devant le micro en fin d'émission. Mais je le disais, nous sommes en bonne compagnie aujourd'hui puisque nous sommes avec Morgane Laborde. Tu as donc créé le projet Le Labo de la Méduse. Et alors ce projet, qu'est-ce que c'est peut-être en quelques mots?
Alors ce projet, c'est un projet de réorientation professionnelle parce que je ne suis pas du tout issue de ce milieu-là à la base. Mais voilà, j'avais envie d'entreprendre déjà et puis j'avais surtout envie de faire parler mes passions. Et les choses qui m'animent depuis que je suis petite, c'est du coup le Labo de la Méduse est né. Et donc je travaille autour de mobilier d'objets chinés que je m'attelle à réemployer pour leur donner une seconde, voire une énième vie pour certains qui ont déjà eu plusieurs vies. Donc du mobilier, mais aussi des objets.
Et donc le Labo de la Méduse, c'est plusieurs choses parce que tu construis également des décors que tu proposes à la location pour des événements à partir toujours de meubles et d'objets que tu chines. Donc là, tu crées vraiment un univers, différents univers pour différents événements tels que les mariages ou d'autres choses.
C'est ça. En fait, quand je chine, je fonctionne assez au coup de cœur. Donc, je n'ai pas forcément une idée en tête précise à la base, mais une fois qu'il est dans mon atelier, je lui donne une nouvelle destination, donc soit il part en rénovation pour repartir à la vente dans une nouvelle maison, soit je l'intègre dans un décor, donc je fais des créations de décors que ensuite je peux proposer à la location.
Et donc, tu le dis, ce domaine, cette passion de la rénovation de meubles, c'est une vraie histoire d'amour vieille de 30 ans, parce que tu es petite fille de bricoleur et de menuisier. Donc c'est quelque chose que tu avais déjà en tête.
Alors oui, sans vraiment le savoir, mais... En devenant adulte et en exerçant plusieurs métiers finalement qui m'ont plu mais qui sont passés aussi, j'avais aussi envie de donner du sens à ma vie professionnelle et du coup de faire parler vraiment les passions et les choses que j'avais à l'intérieur de moi. Et est ressorti l'amour du bois pour la matière, aimer travailler aussi avec ses mains. Et bricoler, faire des tests. D'ailleurs, le mot labo vient aussi de ça. C'est plutôt de l'expérimentation, plus qu'un atelier dans le sens où je suis autodidacte. Donc, du coup, je n'ai pas eu de formation là-dedans. Donc, je teste beaucoup de choses. Et des fois, ça rate. Et puis, des fois, ça fonctionne. Et c'est mieux quand ça fonctionne, en général. Mais c'est formateur, en tout cas.
Et donc, ta première approche, c'était donc avec tes grands-parents. Est-ce que, justement, ils t'ont fait tester des choses aussi, déjà?
Alors non, pas vraiment, mais j'ai toujours vu mes grands-pères bricoler, dont un qui est menuisier de métier. Donc c'est vrai que le bois, je pense que c'est cette porte d'entrée-là. Vraiment, l'amour pour la matière, le visuel du bois, le chêne, les bois nobles. Et puis j'ai un autre grand-père qui bricolait, qui fabriquait beaucoup de choses pour nous, enfants, moi, mes cousins, mes sœurs, ma sœur, mon frère. Et en fait, le fait d'avoir dans le garage un atelier où on fabrique, où on invente, ça m'a toujours... Ça m'a toujours plu, quoi.
Et donc, tu es même justement dans la transmission aujourd'hui, dans le partage, puisque tu proposes des ateliers d'initiation. Le Labo de la Méduse, c'est aussi ça. Alors, comment ça se passe? Ça s'adresse à qui? Comment se passe un atelier? Est-ce qu'il y a un niveau peut-être déjà pour s'y inscrire? Ou est-ce qu'on peut arriver comme ça? On n'y connaît rien, mais on est curieux et on a envie de découvrir avec toi.
Alors, c'est ouvert à tout le monde parce que j'ai surtout pas la prétention de savoir mieux faire que quelqu'un. Moi, j'ai appris comme ça sur le tas aussi. Donc, je pense que tout le monde est capable de le faire. Et en fait, l'idée, c'est de se dire... Si comme moi, avant que je construise le labo de la Méduse, t'as envie chez toi de retaper un meuble dont tu as hérité, par exemple, et que t'as envie vraiment que ce soit d'être fier de l'avoir refait, eh ben moi je propose de venir te donner toutes les étapes, les astuces, les choses à pas faire, hein, le matériel aussi qu'il faut utiliser pour que tu puisses être autonome dans ta rénovation après chez toi. Donc c'est vraiment des ateliers plutôt théoriques, mais je montre aussi des choses, je fais prendre en main le matériel. Je donne des conseils, des astuces, et puis ensuite on repart normalement avec, on va dire, avec toutes les clés en main pour démarrer une rénovation.
Et donc moi, ce qui m'a touchée, ce qui m'a intéressée, c'est que quand on regarde ton approche, on ressent quelque chose de très sensible à la matière, mais aussi à l'objet. Tu soulignes que quelqu'un avant a travaillé, par exemple, sur un meuble, l'a conçu. Et donc, ce meuble, pour toi, c'est important de prolonger son histoire, de le remettre peut-être au goût du jour pour pouvoir le réintégrer, lui redonner une nouvelle vie. Je trouve qu'effectivement, il y a cette valeur du réemploi qui est très importante dans ton projet.
Oui, bah en fait, je fonctionne vraiment au coup de cœur quand je choisis des meubles. Et en fait, en général, j'achète à des particuliers et on me raconte l'histoire du meuble. On me raconte qu'il a été fabriqué par le grand-père de la personne qui me le vend ou qu'il a été fabriqué sur mesure pour telle ou telle utilisation. Et donc, moi, j'achète avec cette histoire-là, avec les marques du passé. On m'explique qu'il y a une poignée qui a été cassée pour telle et telle raison. Et en fait, des fois aussi, régulièrement d'ailleurs, quand je démonte les meubles ou je commence à ouvrir et à rénover, je découvre des choses. Ça peut être un journal qui date des années 60 ou même bien plus vieux encore, qui a été mis dans le fond juste pour protéger le fond du meuble. Ça peut être une pièce qui est tombée dans le pli d'une chaise, d'un fauteuil. Ça peut être tout simplement une signature aussi. Récemment, j'ai eu ça, la signature, et finalement, la personne qui me l'avait confiée pour rénovation m'a dit que c'était finalement son arrière-grand-père qui l'avait fabriqué, elle ne le savait pas. Et il était signé avec une date, il avait plus de 100 ans, quoi. Donc ça, moi, ça me donne des frissons, en fait, parce que je me dis que c'est des meubles qui perdurent et qui traversent les âges et qui ont toujours quelque chose à dire, quoi.
Et dont tu prends soin, comment ça se passe? Par exemple, si chez nous on a un meuble comme ça auquel on tient, mais effectivement ça passe pas dans notre décoration, c'est peut-être il y a encore des marques du passé qui ne nous plaisent pas avec d'autres auxquelles on tient, comment ça se passe? On te contacte et puis...
C'est ça. Typiquement, en fait, oui, on me contacte et en fait, souvent les vieux meubles sont des vernis très foncés, brillants, du coup, le coup des fois abîmés, et en fait, c'est vraiment l'esthétique qu'on aime dans nos intérieurs aujourd'hui. Pour autant, le meuble peut être joli, peut avoir une vraie valeur aussi sentimentale et du coup, on veut ne pas s'en séparer. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble, de discuter, de voir aussi dans quel milieu il va être, donc dans quel environnement, voir la déco existante et puis de créer un projet sur mesure pour qu'il soit adapté et au meuble et au client.
Et donc, tu crées aussi des collections, c'est-à-dire que tu chines. Et alors moi, je me demandais, tu chines des meubles, des objets. Je me demandais, dans ta manière de chercher, est-ce que tu cherches des meubles précis, des styles précis, ou est-ce qu'à un moment, tu vas chiner, comme tu dis, et puis tu as des coups de cœur. À un moment, il y a un meuble que tu découvres, et là, l'imagination, la création se met en place dans ta tête. Comment tu fonctionnes?
Alors, dans mes recherches quotidiennes, je peux avoir des coups de cœur, et dans ces cas-là, j'hésite pas, et là, c'est pas forcément des recherches précises. Et pour autant, il y a aussi des meubles qui reviennent souvent. Que les gens, des meubles d'ailleurs assez utiles en général, des tables de ferme par exemple, ça marche très bien. Ça peut être aussi des buffets. Il y a des meubles aussi qui ont moins d'utilité aujourd'hui. Ils étaient utilisés à l'époque pour des utilisations très précises, comme les meubles Mado qui étaient dans des cuisines. Aujourd'hui, on a des cuisines qui sont toutes équipées, donc c'est des choses qui se font un peu moins. Pour autant, c'est quand même un style qui revient à la mode. Donc c'est vraiment aléatoire. Des fois, je vais cibler mes recherches. Et puis, de toute façon, si je tombe sur quelque chose par hasard et que j'ai un coup de cœur, évidemment, j'hésite rarement.
Et alors, quelque chose qui me semble aussi très, très intéressant, c'est qu'en fait, tu utilises également au maximum des produits propres et naturels. C'est-à-dire que dans ce projet-là de réemploi, il y a aussi l'attention à justement l'importance environnementale, en plus du réemploi que tu nous expliquais juste avant.
Oui, pour moi, c'est une démarche globale. Le fait déjà de réemployer du mobilier de seconde main, c'est pour aussi éviter d'acheter du neuf. Et le fait d'aller au bout du processus en rénovant de manière la plus propre possible, c'est important pour moi. Ça fait partie déjà des valeurs personnelles que j'essaye d'avoir au quotidien. Donc ça faisait sens de l'avoir aussi dans mon métier. Donc oui, peu de peu, peu de produits chimiques, en tout cas le minimum. Des fois, on n'a pas vraiment le choix, mais le minimum. Et puis, je travaille depuis peu avec une marque de peinture biosourcée. Et je ne voulais surtout pas privilégier le biosourcé au détriment de la qualité. Et vu qu'il y a un peu de tout sur le marché, j'ai d'abord testé et j'ai enfin trouvé chaussures à mon pied dans une petite marque locale, nantaise, qui fabrique donc des peintures biosourcées et de super bonne qualité.
Et donc, dans ce qu'on peut retrouver dans tes créations, en fait, il y a tout type de meubles. Ça va de la commode jusqu'à la table, jusqu'aux chaises. Il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut retrouver sur ton site internet.
Oui, de tout. On va dire que le lien commun, c'est le bois. Que ce soit contreplaqué, bois noble, bois blanc, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est qu'en général, c'est en bois. Je travaille aussi un petit peu le métal. Je tâtonne un petit peu, je commence. Mais on peut trouver de tout. Ça peut être un meuble d'appoint, comme ça peut être un très grand meuble, des tables de ferme assez grandes, parfois des chaises aussi. Donc oui, on peut trouver de tout au Labo de la Méduse.
Et donc, tu installes une boutique éphémère du 6 au 30 mars, qui sera ouverte dans les mercredis, jeudis, vendredis et samedis au Forum des métiers d'art à Jublin. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, tu es en collaboration avec une autre artisane pour ce projet-là?
Oui, c'est ça. En fait, le Forum des métiers d'art, c'est aussi mon lieu de travail puisque je loue un atelier là-bas. Et en fait, c'est un espace qui est composé de différentes pièces. Il y a des salles d'exposition. Le Forum, c'est aussi des boutiques éphémères tout au long de l'année, à Noël et en été, qui regroupent plusieurs créateurs. Mais ça, c'est géré par Isabelle Govino, qui est la gérante du lieu. Et en fait, il y a des périodes qui sont creuses entre les événements et puis les boutiques éphémères de créateurs. Et du coup, le Forum avait à cœur de développer ses intersaisonnalités par le soutien à des artisans comme moi. Et est venue l'idée de créer cette boutique sur une période qui était justement inoccupée, en autogestion totale par contre. Là, du coup, le Forum a son droit de regard évidemment, mais c'est moi qui gère de A à Z la boutique. Et j'ai eu envie sur cette boutique éphémère, donc, au passage qui s'appelle Bazar Bonsoir, d'inviter une autre artisane qui est tapissier d'ameublement, donc c'est Nathalie Poutot qui est de l'Alouette suspendue. Et en fait, l'idée de départ, c'était vraiment de proposer au public et à la clientèle une gamme complète de mobilier et objets pour la maison. Donc ça faisait sens d'inviter un tapissier d'ameublement sur cette boutique éphémère.
Donc c'est l'occasion, cette boutique éphémère, de vous rencontrer toutes les deux et puis d'échanger sur votre manière de travailler, puisqu'en fait vous êtes toutes les deux, dans le même état d'esprit vis-à-vis de l'objet, du réemploi finalement.
Oui, c'est ça. Alors je connaissais un petit peu Nathalie parce qu'elle a déjà justement participé à des boutiques de créateurs organisées par le Forum. On s'était juste rencontrés et finalement... Quand j'ai découvert Nathalie, elle fonctionne de la même façon que moi, c'est-à-dire qu'elle récupère aussi des vieux donc fauteuils, chaises et qu'elle retapisse. Donc on est dans la même logique aussi de réemploi, de revalorisation de choses existantes. Donc ça faisait sens clairement quoi.
Et donc Morgane, où est-ce qu'on peut retrouver donc ton travail, pouvoir l'observer? Donc il y a sur les réseaux sociaux, il y a aussi ton site internet.
Oui, et donc cette boutique, puisque je n'ai pas d'autres points de vente pour l'instant, c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de tester la boutique pour peut-être envisager plus tard d'avoir une boutique permanente. Donc c'est vraiment l'occasion de venir nous rencontrer, autant moi que Nathalie, parce qu'on n'a pas forcément souvent l'occasion de rencontrer les créateurs qui sont un petit peu planqués dans leurs ateliers. Et donc voilà, entre les salons qu'on peut faire occasionnellement dans l'année et puis des boutiques comme ça, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de venir rencontrer les gens qui nous suivent sur les réseaux, les gens qui aiment notre travail, juste pour le découvrir aussi, parce que c'est vraiment l'occasion. C'est un lieu qui est déjà connu en fait, donc y a aussi des gens qui se baladent et qui vont juste venir découvrir notre travail sans avoir eu l'idée de venir en fait.
Et donc je le rappelle, ton projet c'est le Labo de la Méduse, donc tu es présente sur les réseaux sociaux, tu as un site internet et donc le rendez-vous c'est du 6 au 30 mars au Forum des métiers d'art à Jublin pour te rencontrer, pour échanger avec toi et puis découvrir tes créations directement sur place. Merci Morgane d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Margot.
Lucie, l'agité du local continue avec l'actu en bref, mais avant ça, tu nous proposes un morceau.
Et oui, moi je vous propose de partir écouter un chant de Grillon un peu original. Vous le connaissez peut-être, ce moment de douce mélancolie quand on regarde des photos argentiques, des vieilles vidéos sur cassette. Eh bien, le multi-instrumentiste américain, et d'ailleurs artiste très complet selon moi, Richard Houghton, nous propose d'y goûter quelques minutes avec son morceau « Moving Pictures ». Et allez, on repart ensemble pour des actus en bref, chers auditeurs, ça fait longtemps et bien sûr, il s'est passé plein de choses. Pour commencer par un sujet assez évident, ça y est, le salon de l'agriculture est terminé et ça a été l'occasion pour beaucoup d'agriculteurs de protester contre leurs conditions de travail et d'élever la voix pour parler de leur mal-être. Et dans ce contexte, la préfecture de la Mayenne, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, met en place des permanences multi-administrations de proximité à partir d'aujourd'hui, le 5 mars. Et ces permanences permettront, selon la préfecture, une prise en charge personnalisée des agricultrices et agriculteurs pour répondre aux difficultés qu'elles et ils pourraient rencontrer. L'accueil sur ces permanences se veut confidentiel et assuré sous l'égide des sous-préfets d'arrondissement. Ces accueils multi-administration se tiendront à partir d'aujourd'hui, donc le 5 mars, à la cité administrative et dans les sous-préfectures, de 10h à midi, puis chaque mardi et jeudi sur rendez-vous, en appelant les sous-préfectures de vos arrondissements. Et ce mois-ci, le collectif Unissons nos différences organise des semaines d'éducation contre les discriminations du 9 au 22 mars. Bon, tout est dans le nom, l'objectif est de lutter contre l'exclusion et de promouvoir l'acceptation des différences. On passe sur un point sport à présent, notre étoile lavalloise, toujours en tête du championnat de France D1, a tout de même été pénalisée de 3 points par la Fédération française de futsal. Pénalisation à laquelle le président Julien Moreau explique dans les colonnes du Ouest France vouloir faire appel. Ceci dit, quoi qu'il arrive, cette pénalisation ne met pas en cause la première place du club. Et avant de finir, je ne peux pas ne pas vous parler de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, adoptée hier lundi 4 mars. Chez nous, en Mayenne, le seul vote contre cette adoption est porté par Guillaume Chevrollier du LR. Et on termine avec un petit rendez-vous qui fait plaisir à La Chapelle au Ribou. La saison du petit marché chapellois va commencer ce vendredi 8 mars. Ce sera de 16h30 à 19h30 sur la place du village de La Chapelle au Ribou. Et tout le monde, habitants et producteurs, seront heureux de vous y retrouver et vous attendent avec impatience. On passe à la météo cet après-midi, on a nos petits 8-9 degrés, les classiques nuages et rares averses qu'on ne présente plus. Et même à une petite fantaisie, des rafales à 40 km/h ou jusqu'à 50 km/h dans le nord du département. Ce soir, les éclaircies arrivent sur la majeure partie du territoire, bien que les nuages s'accrochent un peu dans le nord-est, comme à Mayenne, Goron ou Le Haut. Et en moyenne, on aura des 5 degrés jusqu'à 7 degrés à Laval. Cette nuit, le ciel sera clair quand même, avec quelques petites pluies éparses par-ci par-là, comme à Loiron, Ernée ou Évron. Par contre, on descendra à 0 ou 1 degré, donc c'est le moment de ressortir la bâche anti-gel et le grattoir à pare-brise pour demain matin. Et demain matin, justement, ce sera pluie éparse un peu partout, avec 2-3 degrés dans l'ouest et le sud de la Mayenne, voire 1 degré à Château-Gontier, et plutôt 4 ou 5 degrés sur la moitié est. Mais prévoyez plusieurs couches de vêtements plutôt qu'un gros manteau, parce que l'après-midi, ça se réchauffe bien. On montera à 10-11 degrés, voire jusqu'à 13 degrés. Et dans le ciel, ce sera nuageux sur toute la moitié ouest du territoire, avec quelques gouttes encore, et des éclaircies qui vont arriver par le nord-est. Pas d'inquiétude, le soleil va débarquer dans tout le département le soir avec des températures entre 5 et 7 degrés pour glisser doucement vers les 3-4 degrés de la nuit.
Aujourd'hui, on prend la route vers le nord Mayenne, on va à Saint-Pierre-des-Nids et on passe la porte du cinéma associatif L'Aiglon. On y rencontre Charlotte Royer, présidente de l'association. Elle nous raconte l'histoire de ce cinéma et nous fait le portrait du cinéma L'Aiglon en Mayenne.
Charlotte Royer, donc je suis la présidente du cinéma L'Aiglon depuis 2012.
Mais alors vous étiez bénévole depuis quelques temps déjà.
J'ai fait 10 ans de 78 à 88 et de 2004 à maintenant, donc ça fait 20 ans, ça fait donc 30 ans au total.
C'est quoi l'histoire du cinéma L'Aiglon ?
Disons que si vous voulez, au départ en 1946, c'était une séance ponctuelle de temps en temps. À partir de 47, il y a eu une séance régulière toutes les semaines, mais l'association Cinéma L'Aiglon existe depuis 1966. Avant, c'était la salle de patronage, hein, c'était ça. Mais donc, depuis 1966, c'est là où a été créée vraiment l'association Cinéma L'Aiglon. Voilà.
On peut le dire, vous avez une très belle salle. À quel moment ont eu lieu ces rénovations ?
C'est-à-dire qu'on a essayé d'évoluer. Le président qui était là avant moi et ceux qui étaient toujours avant ont toujours essayé de faire en sorte que de maintenir le confort et ainsi de suite de la salle et d'être aussi quand il y avait les appareils qu'il fallait les changer parce qu'ils étaient obsolètes ou autres, il fallait les changer. On a eu un problème en 81 où les appareils ne fonctionnaient absolument plus du tout, ça n'allait pas et on n'avait pas les finances pour le faire. Donc là, il y a la mairie qui a beaucoup donné pour qu'on puisse continuer à faire du cinéma. On a été fermé 6 mois, hein, donc on en a profité pour rénover un petit peu la salle, les peintures, enfin bref, tout ça. Hein, et puis les appareils de projection qui étaient au top, quoi. Et donc, on a reparti avec La Chèvre, si ça vous dit quelque chose, le film La Chèvre. Eh bien, c'était le premier film après la rénovation. Donc, c'était super, quoi.
Donc ce jour-là, vous avez repris avec des rires dans la salle.
Ah bah tout à fait, et puis ben là, la salle était complète. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de jauge. Il n'y avait pas à dire, il y a 151 places plus 4 et on ne dépasse pas. Là, il y avait des bancs qui étaient de chaque côté de la salle. Il y avait des gens qui étaient assis par terre et tout le monde était content, quoi. Voilà, la sécurité, on n'y pensait pas vraiment à cette époque-là.
Un cinéma à Saint-Pierre-des-Nîs comme le vôtre, un cinéma historique même, c'est important et essentiel de le maintenir, Charlotte.
C'est-à-dire que là, dans le nord-est de la Mayenne, on est le seul. On est le seul. La communauté de communes des Avaloirs, puisqu'on fait partie de la communauté de communes des Avaloirs, on est le seul. Il y a les écoles qui y viennent, avec Atmosphère 53, que vous connaissez peut-être. Les écoles, il y a les collèges qui viennent aussi, toujours avec Atmosphère 53. Il y a différentes choses que l'on fait comme ça avec les écoles, avec les collèges, qui m'appellent maintenant pour me dire « Est-ce que vous pouvez nous passer ce film-là » Donc, on est là. Pour les anciens, c'est pareil. Il y a des anciens qui vont venir ici au cinéma, qui ne vont pas aller dans une grande salle parce qu'ils s'y sentent un peu perdus. Je crois qu'on est vraiment utile. Mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que, comme vous le savez, tout augmente partout. Donc ici, ça augmente aussi. Nous, les places de cinéma, on ne les augmente pas. Ils restent à un tarif plus que correct, puisque, par exemple, quelqu'un qui prend des tickets fidélité, la place, elle est à 5 euros. Et pour les enfants, elle est à 3 euros. Donc je crois que c'est vraiment abordable pour tous. Parce que c'est ça qu'on veut, que ce soit abordable pour tous. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 50 ou 100 euros dans une place de cinéma pour la famille complète, quoi.
Charlotte, vous êtes présidente de l'association. Avec vous, il y a 49 bénévoles qui font vivre le cinéma. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour le cinéma L'Aiglon ?
Tout ce qu'il y a à faire. Donc ça va de très peu de choses et à très. Donc c'est-à-dire que disons qu'au moins, je fais au minimum 3 heures de travail pour le cinéma tous les jours. Au moins. Hier, ça a été 8 heures. Avant-hier, ça a été 7 heures. Voilà. Donc je ne compte pas mes heures. En gros, à la semaine, je fais entre 20 et 35 heures par semaine pour le cinéma. Pour moi, c'est important que le cinéma continue. Pour moi, c'est important et c'est pour ça que je me bats. Et c'est pour ça que je me mets à fond dedans aussi. Parce que j'estime que, comme je vous disais tout à l'heure, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour différentes raisons, il a une raison d'exister. Il peut être utile, il est utile. Donc, il faut qu'il tienne. Et donc, pour ça, il faut faire tout ce qu'on peut pour qu'il tienne. Mais je dirais que on a tendance à dire le cinéma L'Aiglon à Saint-Pierre-des-Nîs. C'est bien qu'on ait un cinéma à Saint-Pierre, seulement on va au cinéma à Alençon. Voilà. Il fait partie des meubles, mais on oublie que pour qu'ils vivent, il faut aussi quand même y venir de temps en temps, quoi. Voilà. Et donc pour ça, il faut qu'on ait aussi un petit peu de spectateurs. Mais c'est vrai pour le cinéma comme c'est vrai pour tous les autres petits commerces.
Comment est-ce que vous choisissez la programmation du cinéma L'Aiglon ?
Là, on est une équipe de 5-6 où on fait chacun notre liste. On se réunit et on met en commun notre liste, on pique dans l'une, on pique dans l'autre. Enfin, bien souvent, on a tous un peu le même film aussi, quelquefois non, puis on en discute. On voit le pour et le contre en fonction de ce que notre public aime aussi. Puis on essaye de faire des choses, d'être diversifiées, si vous voulez. Comme le vendredi, souvent, c'est ces films qui donnent à réfléchir, par exemple. Et puis le samedi, le dimanche, c'est plus familial. Je ne vais pas dire grand public, mais familial. C'est-à-dire que ça peut toucher les grands-parents comme les parents, comme les enfants, quoi. Voilà. On essaye de faire des choses comme ça. Donc, on passe aussi des comédies. Enfin, on passe un petit peu de tout, quoi, en fonction de ce qui est proposé à ce moment-là.
De nouveaux bénévoles peuvent vous rejoindre, bien sûr. Qu'est-ce que c'est être bénévole au cinéma L'Aiglon ?
C'est un engagement. Et donc, tout est planifié. Il y a un planning que je fais tous les trimestres pour les caissières, pour les opérateurs, pour les ouvreurs-ouvreuses. Hein, donc, ils ont tous les trimestres, ils ont leur planning. Et s'ils veulent le faire, le roulement se fait automatiquement. Donc, ils peuvent même le faire à l'année sans problème, quoi. Hein, et puis, bon, ben, ils sont quand même suffisamment nombreux aussi pour éventuellement, s'ils ont un imprévu, de se faire remplacer. Bien sûr, il faut qu'eux remplacent aussi à leur tour pour que tout ça, ça marche bien.
On aime le retrouver pour le grain de sa voix, mais aussi son ton unique. Je vous parle de notre chroniqueur Donatien. Et aujourd'hui, je crois que pour Donatien, ça pique un peu.
Lancé à fond sur son vélo dans la descente, le cycliste débutant a laissé sa monture prendre de la vitesse, divaguer à droite puis à gauche et, perdant un équilibre précaire, l'apprenti champion a fait un vol plané éphémère, précipitant deux mains fragiles et deux genoux à la peau tendre sur le gravier. Il va falloir essuyer les larmes, nettoyer la peau rougissante de sang, restaurer l'amour-propre. Pour cela, un baiser, ajouté à quelques paroles consolatrices, devrait suffire. On ramènera le maudit vélo de mauvaise grâce jusqu'à la maison. Avant de retrouver le sourire devant un bol de chocolat chaud, il faudra désinfecter les plaies avec du mercurochrome. C'est indolore, mais aussi un peu d'alcool. Et ça, malheureusement, ça pique un peu. Ça pique un peu. La première fois, les jambes nues dans les orties. Le sel sur les premiers coups de soleil. Ça pique un peu. L'aiguille du docteur qui fait les vaccins sur l'épaule, sur le bras, dans la fesse. Ça pique un peu. L'aiguille de l'infirmière qui fait une prise de sang. Ça pique un peu. L'injection chez le dentiste. Ça pique un peu. Le collyre dans les yeux. Mais à chaque fois, ces professionnels du soin ont la gentillesse de vous prévenir, comme autrefois, maman, après la chute du vélo, attention, ça va piquer un peu. On n'aura pas toujours cette chance d'être prévenu quand plus tard la réflexion d'un collègue ou pire d'un ami piquera au vif l'amour-propre ou quand une déception sentimentale enfoncera une aiguille dans le cœur sans précaution oratoire. Le chirurgien, lui, aura la délicatesse de prévenir lors de la biopsie. Ça va piquer un peu l'anesthésie. De tout ce qui pique un peu, du froid de l'hiver au vert d'Alka-Seltzer, Donatien retient la sensation des bonbons acidulés qui piquent un peu la langue, ou la sauce qui accompagne les frites tellement appréciées de la famille Tuche, la mayonnaise qui pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent, la sauce samouraï. D'autres bons souvenirs piquent un peu. La première manifestation étudiante et les bombes lacrymo qui piquaient les yeux et la gorge, les étincelles du brasier qu'on avait allumé sur la plage pour fêter son bac, les bulles d'un vin pétillant que pour l'occasion on avait débouché, le sel de l'océan sur la peau tendre de citadins un peu cramés par le soleil, et puis, sur les lèvres, le fougueux baiser un peu mordant de la fanette.
Nous étions deux amis et Fanette m'aimait. La plage était déserte et dormait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront combien pour la Fanette j'ai chanté de chansons. Faut dire qu'elle était belle comme une perle d'eau. Faut dire qu'elle était belle et je ne suis pas beau. Faut dire qu'elle était brune tant la dune était blonde. Et tenant l'autre et l'une, moi, je tenais le monde. Faut dire que j'étais fou de croire à tout cela. Je le croyais à nous, je la croyais à moi. Faut dire,
qu'on ne nous apprend pas à se méfier de tout. Nous étions deux amis, Fanette, Mémère. La plage était déserte, et mentait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront comment pour la Fanette s'arrêta la chanson. Faut dire qu'en sortant d'une vague mourante, je les vis s'en allant comme amants et amantes. Faut dire qu'ils ont ri quand ils m'ont vu pleurer. Faut dire qu'ils ont chanté quand je les ai maudits. Faut dire que c'est bien ce jour-là qu'ils ont nagé si loin, qu'ils ont nagé si bien qu'on ne les revit pas. Faut dire qu'on ne nous apprend pas, mais parlons d'autre chose. Nous étions deux amis, Fanette l'aimait. La plage est déserte et pleure sous juillet. Et le soir, quelquefois, quand les vagues s'arrêtent, j'entends comme une voix. J'entends, c'est la Fanette.
C'était La Fanette de Jacques Brel. L'Agité arrive à sa fin. Merci à Morgane d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Donatien et merci à toi, Lucie. Ton retour nous fait le plus grand plaisir. Tu nous avais bien manqué. Nous, on s'arrête maintenant, mais l'autre radio ne s'arrête jamais.
Toujours des grands mots, Margot, mais oui, c'est bien vrai. La soirée commence à 19h avec les rendez-vous de la PES. Et aujourd'hui, Jeanne est en compagnie de Philippe Libaud, responsable animation territoriale et prospective au sein de France Active Pays de la Loire. Et il nous présente le fonctionnement du dispositif local d'accompagnement.
Et puis ensuite, on continue à 21h avec Frères de Chaussures.
Et Frères de Chaussures s'écrit avec un accent circonflexe, Fatchou, qui propose cette émission Y Tient.
Et c'est bien sûr notre émission sur le rap français. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local sur l'autre radio. Nous serons en compagnie de Isabelle, la coprésidente et comédienne au sein de la troupe de Noriol, qui nous parlera de la pièce de théâtre « Et Dieu créa les fans ». Une très belle émission vous attend. D'ici là, prenez soin de vous et bien sûr, faites le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Et quand même, d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.